Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. La tolérance est-elle l'horizon de notre société pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans l'assignation, homme ou femme, qu'il aurait faite à la naissance ? Certes, la transition d'une identité genrée vers une autre est aujourd'hui possible en France, mais reste compliquée, longue et surtout très encadrée. Ne devient pas homme ou femme qui veut, le changement de sexe à l'état civil notamment, est soumis à la décision d'un juge qui ne l'accorde pas toujours. Parcours du combattant côté administration, discrimination, voire violence dans la vie de tous les jours. Il y a encore 2 semaines, dans une petite localité près de Clermont-Ferrand, à la sortie d'un supermarché, 4 hommes ont violemment agressé une femme, trans, qui justement sortait de ce supermarché. Un cas loin d'être isolé, mais qui ne semble pas émouvoir outre mesure, car si l'on parle des trans, ces derniers jours, c'est plutôt à la faveur de la sortie en salle aujourd'hui de Lola Pater, de Nadir Moknesh, un film qui raconte les retrouvailles entre une femme trans, Lola, et son fils conçu quand elle était encore un homme. L'occasion peut-être de débattre de la réalité vécue par les personnes trans et de leur combat. Personne transgenre, faut-il être visible pour être reconnu ? Eh bien, c'est le débat que nous aurons ce soir jusqu'à 19h avec 3 invités pour en discuter. À commencer par vous, Delphine Ravizégière, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes présidente de l'Association nationale transgenre, l'ANT. Vous êtes par ailleurs militaire de carrière, adjudante chef dans l'armée de l'air et vous êtes femme transgenre. À vos côtés pour discuter, Sam Boursier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Lille. 3, activiste queer et transféministe. Transféministe, ça veut dire quoi ?
Transféministe, c'est la perspective féministe dans les politiques trans, donc ça donne pas les mêmes choses, pas la même conception de la femme. Et c'est aussi un mouvement très fort dans les pays d'Amérique latine, en Espagne et en Italie, qui est une traduction, je dirais, politique un peu différente du terme queer, qui était très américain.
Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un ouvrage à paraître le 30 août 2017, Homo Inc. Orporetid, le triangle et la licorne qui pète, à paraître aux éditions Cambourakis. La licorne qui pète, c'est un symbole aujourd'hui des personnes transgenres.
La licorne n'est pas un symbole des personnes transgenres, c'est un symbole en fait qui est en train de prendre la place, on dirait, du drapeau, avec tout du rainbow, du drapeau arc-en-ciel, avec tout ce qui véhicule de nationalistes, etc. Donc l'idée de la licorne qui pète, comme il y a beaucoup de représentations comme ça sur Internet, c'est la licorne qui chie le drapeau et l'homonormativité. Donc ça peut être un symbole transféministe et queer, c'est deux agendas différents.
Et 3e invitée pour discuter ce soir, elle se trouve en duplex des studios de France Bleu Mayenne à Laval. Il s'agit de Chaynès Khirouni. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne députée PS de Meurthe-et-Moselle sous la législature de 2012 à 2017 et vous avez été l'auteur notamment d'un amendement qui portait sur le changement d'état civil pour les personnes trans fondé sur l'autodétermination. C'était au sein du projet de loi portant sur la modernisation de la justice au XXIe siècle. On va y revenir bien sûr au cours de cette émission. Alors peut-être pour poser un petit peu le cadre de notre débat ce soir, un rapport qui date de 2014 sur la transphobie qui était établie par 2 sociologues, Karine Espiniera et Arnaud Alessandrin, établissait que 85% des personnes trans indiquaient avoir été victimes dans leur vie d'un acte ou de propos transphobes. Est-ce que ça veut dire, Delphine Ravizégière, aujourd'hui, qu'il y a un rejet spécifique aux personnes trans, on va dire, particulièrement fort en France ?
Oui, tout à fait. Donc, ce rejet ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est maintenant qu'on commence à avoir des outils pour mesurer cette transphobie, ces actes de violence, que ce soit des violences physiques ou des violences morales, de harcèlement. Ben, on se rend compte que c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Et on remercie donc Arnaud Alessandrin et Karine Espinera pour nous doter d'outils qui nous permettent de mesurer cette réalité que en fait, nos législateurs et nos interlocuteurs des institutions occulte facilement ces violences. Donc en effet, ces violences existent et elles perdurent et sont même peut-être parfois, incitées par l'État.
Sam Boursier, sur cette question, est-ce que la transphobie, le terme existe, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas été encore assez identifié vraiment comme problème de société ?
Je ne suis pas très fan de ces histoires de transphobie, enfin des termes transphobie, homophobie, etc. Généalogiquement, c'est une, si vous voulez, une manière assez psychologisante de parler justement des violences, parce qu'elles existent évidemment, qui sont faites aux personnes d'un genre différent. Parce qu'on dit transphobie, on dit homophobie, mais finalement, les gays et les personnes trans se font largement calculer par une discordance ou une déviance, entre guillemets, ou une différence de genre, d'affichage de la masculinité et de la féminité. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat, si vous voulez, sur les termes, mais je crois que ça nous amène à penser pourquoi en ce moment tout le monde est d'accord, là aussi je prends un peu le contre-pied, pour faire de la mesure, je connais Karine Espinera par ailleurs, je souligne d'ailleurs que c'est une universitaire transbrillante qui n'a pas de poste dans l'université française, donc ça on n'aura pas le temps, mais ça aussi. Parce que vous voyez, la transphobie, il y a une scène un peu primitive de la discrimination qui est l'insulte, la violence. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, mais c'est quoi nos politiques de la violence ? C'est-à-dire que les féministes, les femmes, les gays dans les années 70, etc., ils ont commencé à se dire comment on va faire face à la violence. Et la violence, c'est pas forcément de demander au droit de vous protéger ou demander aux flics de vous protéger. Parce que si vous y réfléchissez bien, si on parle des violences justement transphobes d'État ou des lieux où s'exerce la violence, c'est dans la famille, dans les prisons, dans les institutions. Donc je pense que plutôt, et aussi, on parle des personnes trans parce qu'on est d'accord pour les victimiser. C'est-à-dire, c'est sympa de parler, c'est sympa. On va parler des personnes trans parce qu'on va dire oui, on va vous protéger. Et on va donc leur dire ok, si on parle de vous, si le droit s'occupe de vous, c'est en tant que victime. C'est une vision. C'est important. C'est pas la seule manière de lutter contre la violence. D'accord ? Ça passe pas une, parce que ça marche pas. Vous voyez, prenez toutes les politiques antiracistes, prenez les politiques antisexistes, prenez les politiques anti-homophobie, tout, ça ne donne rien. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes à un moment clé, c'est-à-dire que si on parle beaucoup des trans, si 2018 s'annonce comme l'année trans pour Olivier Pie, pour le cinéma français, c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle. Enfin, c'est des formes de visibilité qui s'entrecroisent, qui sont complexes. Donc il faut faire vraiment attention à ce que ça veut dire. Vous savez que l'Europe, et maintenant en France, il y a un management de la diversité qui est obligatoire. Moi, je suis dans une fac où on fait semblant de faire des choses pour les personnes trans, mais où moi, je suis discriminée en permanence, par exemple. Vous voyez, ça peut être très fake, tout ça.
Alors, Chaynesse Khirouni, comment est-ce qu'on, à votre avis, à vous, comment est-ce qu'on fait pour parler et ne pas occulter la question des violences, des discriminations, donc que ce soit, comme le disait Sam Boursier, soit des violences de rue ou des violences de type discrimination au travail, à l'embauche, etc. Comment on fait pour en parler sans réduire, évidemment, la question trans à ça.
Moi, j'ai un engagement militant depuis maintenant une vingtaine d'années, de manière beaucoup plus globale, contre les discriminations, pour l'égalité des droits. Et lorsque, en tant que députée, j'ai été interpellée sur ces questions, c'est par le biais des associations, et notamment de l'ANT, qui m'a sensibilisée en tant que législateur à cette question. Et comme nous étions dans l'examen du texte concernant la loi justice du 21e siècle, c'est vrai que la question du changement d'état civil, la question des droits et du manque de cadre juridique et d'une insécurité juridique dans lequel s'exerçait ce droit en France, je l'ai appréhendé à partir du moment où on m'a interpellée. Donc j'ai toujours été engagée en étant à l'écoute et sensibilisée aux questions de discrimination, de harcèlement et de violence, mais de manière beaucoup plus globale, c'est la question de que chacun puisse avoir toute sa place dans notre société. J'allais dire, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Et c'est plutôt, j'allais dire, chez moi, une démarche et une sensibilité particulière qui m'a permis de m'engager, notamment durant cette législature, sur ces questions.
Une question à nouveau, Chaynesse Khirouni, en tant que députée, sur cette question de dire est-ce que les actes de violence envers les personnes trans aujourd'hui sont le fait d'individus dans la rue, ou à quel point on a aussi une violence qui est exercée dans des institutions, que ce soit à la poste, que ce soit au guichet de sécurité sociale, à l'hôpital. Comment vous, en tant que députée, vous avez pu mesurer ça, ou pas d'ailleurs ?
Pour être sincère, je ne l'ai pas forcément mesuré directement à titre personnel, mais je l'ai plutôt mesuré par le biais, par le relais des associations. On n'a pas la possibilité, et notamment en tant que législateur, d'avoir une connaissance de l'ensemble des sujets. En revanche, j'ai été, j'allais dire, suffisamment ouverte et à l'écoute sur ces questions-là, même si on peut considérer, je ne sais pas si ça viendra en débat, puisque la question c'est faut-il être visible pour être reconnu ? Je considère que justement, on ne peut pas laisser, le politique ne peut pas laisser s'installer un rapport de force qui ferait que, j'allais dire, des minorités ne pourraient pas être visibles ou ne pourraient pas avoir les droits, une avancée de droits, parce que le rapport de force n'est pas suffisamment fort. Donc, à nous aussi d'avoir cette possibilité d'être à la fois innovant, d'être à l'écoute et de ne pas être forcément guidé par un rapport de force ou par un niveau de violence qui serait inacceptable ou inadmissible.
Sam Boursier, vous vouliez réagir ?
Non, mais c'est-à-dire qu'en écoutant ce genre de discours des politiques, en particulier du Parti Socialiste, qui s'est vraiment illustré hein, dans sa défense de l'égalité des droits, je crois que déjà, vous avez évoqué, vient d'être évoqué une espèce de flou juridique par rapport à l'état civil, etc. Non, il n'y a pas un flou juridique. Il y a depuis des années un discours juridique, un discours médical, un discours psychiatrique qui marche main dans la main. Donc c'est loin d'être pas structuré. C'est tout le dispositif de contrôle de la sexualité du 19e siècle. Voilà. L'égalité des droits, je m'excuse, mais depuis le XVIIIe siècle, on nous raconte que donc dans une démocratie libérale, chacun a des droits, et puis on va les avoir, puis c'est bizarre, puis ça n'arrive pas, etc. Vous voyez, déjà parler d'égalité des droits, si on y réfléchit, c'est un peu aberrant. Enfin, c'est quoi ? Je veux dire, j'essaye d'attirer l'attention sur l'ambivalence du droit. Et là, clairement, ce que j'entends aussi, c'est un discours super pas informé. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui prend dans son panier toutes les discriminations, c'est gentil, mais c'est pas très utile. Et c'est pas la seule manière de lutter contre les discriminations. Vous pouvez avoir de l'affirmation culturelle, favoriser la production des savoirs trans, donner un poste à Karine Espinera dans l'université. Un jour, alors que je montais pour vous donner un exemple très concret de discrimination dont on ne parle pas et dont cette ex-députée n'a visiblement pas entendu parler. Je suis à l'université, nous montons un master genre. Des personnes viennent à une journée d'études genre. La personne qui dit qu'elle est spécialiste des études genre m'envoie un mail à la fin de la journée. Elle me dit, qui ? Alors il y avait deux personnes trans, femmes, dans sa tête, hein, et un gars trans, mais qu'elle a pas repéré parce qu'elle a pas compris comment ça se passe.
J'ai entendu dire
qui étaient ces personnes d'un genre qu'on s'attendrait plutôt à trouver près d'une gare et qui ont mangé tous les petits gâteaux de la pause à l'université. Donc les trans sont des putes, hein, elles sont près de la gare, et en plus c'est une réflexion sexiste de la part de quelqu'un à l'université qui dit qu'elle est spécialiste de genre. Donc si on veut lutter contre les discriminations, et j'en termine, il faut avoir une action culturelle, des trucs d'affirmation culturelle. Arrêtez de dire oui, les trans c'est des victimes, il faut les protéger. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas rester que dans la protection.
Alors, je précise que vous n'êtes pas avec nous en studio, donc ce qui facilite pas forcément les échanges. On va essayer de rester sur le fond du débat, pas forcément sur. Mais je vous laisse répondre et puis après Delphine Ravisé-Gerre qui voulait intervenir.
Je veux répondre et j'imagine que Delphine répondra. Lorsque j'évoquais les questions des discriminations de manière plus large, j'évoquais simplement comment moi, à titre personnel, je me suis intéressée à cette question en tant que législateur, une question que je ne connaissais pas, et je l'ai bien dit, je ne connaissais pas jusqu'à ce que des associations, des présidents d'associations m'interpellent. Là où je suis désolée, mais vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas renseignée sur ce que j'ai fait, comment j'ai agi, vous m'avez vue en tant que députée du Parti Socialiste, sauf que c'est moi avec une collègue qui a défendu l'amendement sur le principe d'autodétermination et du changement libre et gratuit de l'état civil pour les personnes trans, donc qui allait justement à l'encontre et qui allait beaucoup plus loin que ce que mon groupe, que ce que cette majorité présidentielle a proposé. Donc je ne peux pas vous laisser dire que ce sujet, je ne le connais pas, je ne m'y suis pas intéressée. Au contraire, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, de poser le débat et lors d'un scrutin public sur cette question de l'autodétermination qui, malheureusement, on a perdu puisqu'au moment du vote, l'amendement n'a pas été adopté. Mais il est allé, en tout cas, j'ai porté ce débat jusqu'au bout.
Delphine Ravizégère, est-ce que les droits des personnes trans doivent être portés par les personnes trans elles-mêmes? Et là, on le voit dans notre discussion depuis 18h15, est-ce qu'il est problématique et est-ce que c'est une problématique à laquelle vous êtes confrontée à l'association, à l'ANT, de élargir le combat aux personnes qui ne sont pas trans?
Alors, ce sujet est assez important. C'est déjà, faut déjà dire que la question du genre, elle est occultée par, la société, les politiques, les médias. La question du genre a été mise de côté parce qu'il y a la Manif pour tous qui a mis un veto sur ces questions. On l'a bien vu avec la BCD, l'égalité, tout ça. Ils ont mis un veto et plus personne ne veut y toucher, plus personne ne veut même entendre ce mot. Vous avez remarqué que sur la loi modernisation 21, le mot genre n'existe pas. Voilà, sur la loi de changement d'état civil. Donc là, on est confronté à un premier problème. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces questions d'accès, on va dire, à l'émancipation d'une population, qui passe aussi par accéder à des droits, mais pas que. Mais le sujet en ce moment, c'est ça. C'est en fait un combat qui est multiple. On est centré sur le changement d'état civil et gratuit avec Chenez Kirouni. C'était, on va dire, une interlocutrice pour essayer d'améliorer ce que le gouvernement proposait. Mais il est bien évidemment que ce combat, il n'est pas unique. Il était médiatisé, certes, parce que c'était une urgence d'arrêter la stérilisation des personnes transgenres qui voulaient changer d'état civil. Voilà. Ça, c'était une urgence. On remarque quand même que pour les personnes intersexes, c'est toujours le cas. Il y a toujours des opérations sur les nourrissons. Donc, je veux dire, c'est un combat juridique, c'est un combat législatif pour accéder à des droits. Mais le combat ne se limite pas à ça. Il y a un combat pour accès à la santé, un combat pour l'accès au travail, un combat pour l'accès à la culture, comme le disait Sam Boursier. Je veux dire, on n'a pas à se focaliser sur un combat. C'est les médias qui se focalisent et on est obligé dans notre société, à un moment donné, lorsqu'il y a une fenêtre de tir, comme on dit, pour essayer de conquérir un droit, on se focalise dessus parce que la communauté transgenre n'a pas un poids assez fort face aux législateurs, face à l'hétéropatriarcat. Voilà, être face à ces tenants, face au sexisme. Parce qu'en fait, pourquoi nous, on n'a pas nos droits? C'est pour toujours imposer le sexisme dans notre société. Voilà, pour imposer ces normes genrées, c'est-à-dire la femme, parce qu'elle a une biologie de telle sorte, elle doit avoir telle place dans la société, elle doit avoir tel comportement, et le mâle, pareil. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y avait une fenêtre de tir pour le législatif, on a tout mis sur cette fenêtre de tir, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. On n'a pas eu une déjudiciarisation, on n'a pas eu une démédicalisation, contrairement à ce qui est dit par le gouvernement et certaines personnes. C'est toujours médicalisé. Et deuxièmement, ce combat a aussi occulté tous les autres que les associations mènent. C'est-à-dire un combat d'information, un combat d'éducation. On essaie de voir avec les écoles, l'éducation nationale, mais les portes se ferment, évidemment, pour éduquer les jeunes enfants, pour éduquer les jeunes adultes à avoir une ouverture d'esprit sur les questions de genre pour éviter les comportements sexistes et transphobes et homophobes. C'est un combat aussi qu'il faut mener. Mais quand on a une ouverture de tir pour mener un combat, eh ben on le mène. Voilà. Alors, et on le fait, je vais terminer, c'est que pour revenir à votre question initiale, quand même, je ne l'ai pas oublié dans ma tête, c'est ce combat, on ne le gagnera pas seul. Je vois dans certaines communautés qu'il faut se replier sur soi-même pour faire notre combat à nous. En tout cas, nous, en tant qu'association, on s'est allié à des personnes, à des associations LGBT qui nous ont soutenus. Ce n'est pas elles qui nous ont dicté nos revendications, mais nous les avons, nous, convaincus avec Inox, c'est le centre donc LGBT de Rennes. Ils nous ont écoutés, ils ont dit « Ok, d'accord, vos revendications, on les prend à notre compte et on va les défendre. » Avec Chenez Kirouni, c'était pareil. Ce n'est pas elle qui nous a imposé « Vous devez faire ceci ou cela pour le changement d'état civil. » C'est nous qui l'avons, on va dire, essayé de la convaincre, qui l'avons convaincue malgré que au niveau législatif, ça ne soit pas passé. On ne peut pas se passer des personnes hétéros, parce que peut-être qu'elles ont du soutien, elles peuvent porter des revendications, elles peuvent porter une parole. Je pense que les questions de genre, parce que la question transgenre est une question, mais la question de genre intéresse tout le monde. Voilà, soit le sexe, les mâles, les femelles, les hommes, les femmes, tout le monde est intéressé par le genre et ce carcan que la société essaye de nous enfermer.
Alors, ça me poursuit pour bien comprendre la nature de la critique que vous formuliez tout à l'heure. Est-ce que, comme le disait Delphine Ravizé-Giard, vous êtes senti dépossédé quelque part de combats que vous meniez ou que ces combats avaient été mal compris, mal interprétés?
Non, ce que je pense qu'il est important de faire comprendre aux éditeurs, parce que ça n'a jamais vraiment été dit aux éditrices, si on veut genrer de manière binaire, si vous voulez, c'est qu'il y a des politiques trans. Il y a des agendas. Donc on pourrait voir en quoi ils diffèrent. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est pas un combat corporatiste. C'est pas un combat qui concerne que les personnes trans. Et je sais que c'est compliqué à faire comprendre ce que j'essaye de dire, mais si on ne parle de ça qu'en termes de droit, ça va pas, hein, parce que c'est pas le droit, quelque part, qui va et tout solutionner et qui est très intéressant pour produire des subjectivités. Ce combat concerne tout le monde, pourquoi? Parce que, justement, l'autodétermination de son genre, c'est quoi? C'est pas simplement basculer de l'un à l'autre comme dans Lola Pater, d'accord? C'est pas les hommes qui deviennent des femmes, mais les femmes qui deviennent des hommes, d'accord? Ça, c'est le 19e siècle. D'ailleurs, Lola Pater est un téléfilm du 19e siècle, voilà. De transsexuels. C'est que c'est la liberté d'autodéterminer son genre, donc c'est pas. Il y a la différence sexuelle de sexe, de genre. Ah, vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous allez aller de l'autre côté, on va être gentil avec vous. C'est pas une société binaire au niveau des sexes. C'est pas que c'est au-delà, c'est pas le troisième sexe, c'est qu'il y a plusieurs sexes, plusieurs genres. Et je parle pas d'un choix individuel. Du fait qu'effectivement, la binarité de genre, la différence sexuelle, telle que la que nous la connaissons, est une fiction qui s'est installée dans la culture occidentale au XVIIIe siècle avec le capitalisme qui a antagonisé les deux sexes, comme on dit, les hommes et les femmes, et pour des raisons bien précises.
Juste si je comprends bien, c'est-à-dire donc que c'est la manière dont on aborde la question transgenre aujourd'hui, c'est-à-dire que la société va consentir à accorder qu'une personne puisse changer de genre, donc passer de l'un, de tout l'un quelque part,
c'est pas
à tout l'autre.
C'est
la manière
si
dont c'est pris aujourd'hui, mais que selon vous, il faudrait aller plus loin, si je comprends bien, et donc de déconstruire totalement et l'un et l'autre.
Mais c'est que ça va ensemble, c'est pas, vous voyez, c'est, je veux dire, si vous limitez les personnes trans dans, justement, parce que ça a été ça la narration officielle, la narration pathologisante, etc., c'était dire le mauvais corps, etc., etc. Bon, l'idée c'est de détruire cette fiction. C'est pour ça que personne veut vraiment parler de ce qu'amène la théorie du genre, parce qu'elle existe. Et si ça continue, les cathos la connaîtront mieux que tout le monde, ou mieux que, justement, le Parti Socialiste. La non-binarité, c'est ça le combat. Et c'est pour ça qu'il concerne tout le monde.
Delphine Ravizé-Giard, vous voulez réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit. La question du genre est fondamental. Je le répète, il y avait des mesures d'urgence à prendre. C'est arrêter la stérilisation des personnes transgenres pour changer d'état civil. Et l'état civil, c'est, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, c'est quand même la reconnaissance par un état, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, que ces personnes existent dans un cadre plus ou moins médicalisant ou pathologisant.
Alors,
c'est la première des choses.
Pour vous donner juste quelques informations, aujourd'hui, dans quelles conditions on peut changer, on peut faire une demande de changement d'état civil?
Alors, il faut faire une demande au tribunal de grande instance. On passe par une judiciarisation de nos demandes de changement d'état civil pour fournir une preuve, un faisceau suffisant de preuves comme quoi on vit dans le genre dans lequel on se détermine, qu'on est reconnu comme tel.
Des preuves médicales?
Alors, là, c'est là le problème. C'est que les preuves médicales, on va dire, oui. Mais
finalement,
pas
oui.
Forcément. C'est pas, on va dire que la loi, elle est cynique. En fait, c'est une loi hyper cynique et hyper hypocrite. Donc, je vous le dis, moi je lis l'article de loi. Les principaux de ces faits dont la preuve, donc pour avoir son changement d'état civil, dont la preuve peut être apportée par tous les moyens, voilà, peuvent être, là ils énumèrent trois principes, qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel, qu'elle a obtenu un changement de son prénom. Voilà. Ça, c'est les prérequis, on va dire, des exemples de preuves que doivent apporter les personnes. Et il est rajouté, un petit peu plus loin, donc, le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation, ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. C'est quand même assez hallucinant que dans le code civil, on ait le mot stérilisation. Déjà,
mais
moi,
on stérilise les personnes trans et inter... Enfin,
je veux dire, jusqu'ici, on les a stérilisées.
On leur demande.
Voilà, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là, ce qui est le texte de loi, il dit simplement que le tribunal ne pourra pas refuser un changement d'état civil pour absence de preuves médicales. On est bien d'accord. Sauf que rien n'est dit que pour donner que les preuves médicales que les personnes peuvent apporter, pour être sûr d'avoir un changement d'état civil, elles vont être reconnues. Ça a été dit à l'Assemblée nationale par M. Binet. C'est-à-dire que les personnes qui feront leur changement d'état civil pourront mettre des preuves médicales qui pourront être validées par le procureur de la République et le TGI pour avoir un changement d'état civil. Ça a été dit à l'Assemblée nationale. Je vous enjoins à relire le compte rendu. Moi, je l'ai relis hier soir. Hein. Et justement, là où Schiaroni a fait son intervention et déposé son amendement, c'était hallucinant.
Donc, très concrètement, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un changement d'état civil qui soit basé sur l'autodétermination, c'est-à-dire sur le choix uniquement de la personne qui en fait la demande.
Donc c'est un changement d'état civil libre et gratuit.
Vous allez voir un agent à la mairie et c'est tout.
Devant un officier d'état civil. Ouais, parce qu'il faut quand même, on va dire qu'on est républicain et dans l'État. Mais c'est tout.
Chaînes Kirouni, vous vouliez réagir sur cet aspect.
Oui, c'est effectivement pour compléter les propos de Delphine Ravisé-Diard. La difficulté de cette rédaction, c'est que le juge peut procéder à différentes interprétations. C'est-à-dire qu'on n'exige pas comme préalable des examens médicaux, des traitements hormonaux, etc. Mais on vous dit que vous pourrez transmettre un certain nombre d'attestations. Elles peuvent être médicales, elles peuvent être sociales. Et finalement, ça peut créer, des interprétations selon, en fait, l'ouverture ou pas des juges. Et c'est pour ça que j'ai porté, donc, avec ma collègue Annie Le Houerou, cet amendement qui permettait, justement, cette autodétermination et un changement devant l'officier d'état civil, en sachant que de toute façon, il reste quand même une sécurité juridique, puisque si l'officier d'état civil peut avoir un doute par rapport à la demande, il reste toujours quand même le procureur de la République qui peut toujours intervenir. Donc, il n'y avait pas d'insécurité juridique. Et ce qui est quand même assez incroyable par rapport à ces questions, c'est que on a l'impression que la France est en avance.
La France est toujours
des droits de l'homme, etc. Hein. Et la France est toujours en retard. J'ai travaillé sur un certain nombre de sujets, que ce soit les tests osseux, que ce soit le changement d'état civil, que ce soit la PMA. Mais on a toujours un retard de la France, des condamnations aussi de la France. Je pense que nos invités reviendront sur un certain nombre de ces condamnations. Et il suffit simplement de reprendre tout simplement la décision du Conseil de l'Europe, la résolution 2048 qui a été adoptée en 2015. Il suffit de reprendre l'avis, je trouve, très détaillé et très clair du défenseur des droits qui explique en quoi la seule et unique procédure qui respecte les droits fondamentaux des personnes transgenres et le changement d'état civil libre et gratuit basé sur l'autodétermination devant l'officier d'état civil, et ben malgré tout ça, avec un certain nombre de pays qui l'ont adopté, malgré tout ça, on a toujours l'impression qu'en France, c'est jamais possible et que c'est un tremblement de terre qui va arriver si jamais on adoptait ces dispositions.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Personne transgenre, faut-il être visible pour être reconnu? On en débat jusqu'à 19h avec Delphine Ravisé-Giard, Chaînes Kirouni et Sam Boursier. Alors, ce qui avait motivé aussi la tenue de cette émission, c'est la sortie aujourd'hui en salle du film Lola Pater de Nadir Moknesh, qui met en scène donc les retrouvailles entre une femme trans et son fils conçu avant sa transition. C'est un film qui ne se présente pas comme militant, mais est-ce que la visibilité qu'il donne avec ce personnage principal qui est trans peut contribuer à faire avancer les combats Delphine Ravisé-Giard?
Je vais être assez directe et concrète, non. Voilà, non. Parce que ce film ne représente pas une réalité vécue par les personnes transgenres, que ce soit en Algérie ou en France. Hein. Deuxièmement, la représentativité de la réalité des personnes transgenres. La question de l'acteur, parce que c'est un peu sous-jacent dans cette question.
C'est l'actrice...
L'actrice Fanny Ardant.
Fanny Ardant.
C'est peut-être une très bonne actrice, on remet pas...
Mais ce n'est pas une actrice transgenre.
Non, ce que je veux dire, c'est que pour jouer un rôle, il faut s'informer sur les personnes que l'on joue. Et à mon avis, déjà premièrement, elle ne s'est pas informée sur ce que c'était les personnes transgenres, ce qui étaient ces personnes transgenres au XXIe siècle. Et je pense que le réalisateur et l'auteur, non plus.
J'ai lu le dossier de presse, j'ai vu le film. Et donc le réalisateur a rencardé Fanny Ardant, comme elle l'explique très bien dans l'article de Télérama. Donc c'est lui qui lui a raconté, qui lui a donné un peu la doc, etc. Elle s'en fout, Fanny Ardant. Elle est dans une conception de l'actrice euthoriste, où elle se donne tout entière au réalisateur, qui lui-même, finalement, projette ses fantasmes sur les personnes transsexuelles. Parce que dans le dossier de presse, il est interviewé, il parle tout le temps de personnes transsexuelles. Donc c'est plus un film qui nous apprend, si vous voulez, sur ce qu'est la culture straight, la culture cisgenre, que sur les personnes transgenres. Donc c'est pas à peine de s'énerver quand on est trans pour y aller. Par contre, là où il y a un problème, je trouve, enfin, plus qu'un problème, c'est un film bourgeois aussi. C'est-à-dire que la question d'état civil dont on est en train de parler, bon, elle pose souvent des problèmes dans la vie des personnes trans, et puis après quand on le voit dans un film, on se dit, oh mince, on voit que ça, etc. Mais là, c'est évoqué uniquement pour une transmission de patrimoine. Donc c'est la première fois que je voyais ça, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ah bah dis donc, c'est juste pour la transmission de l'appart. Mais ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est que ce film a bénéficié d'un financement du CNC pour l'aide au développement des images de la diversité, à la fois au développement et à la production. C'est là que ça devient chelou, c'est-à-dire que il faut changer les membres de la commission. Si vraiment ce film est financé à des financements pour l'aide à la diversité, alors est-ce qu'on fait un film pour dire, voyez comme on est gentil avec les personnes trans, avec Fanny Ardant qui tripe, qui fait toujours la même chose. Enfin, vous voyez, il y a un vrai souci. Regardez la couverture de Télérama. Est-ce que vraiment il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, une femme cisgenre qui est en couverture, qui dit le sexe ne change pas, qui dans une interview passe son temps à dire « Ah, les femmes trans, c'est les seins, c'est les fesses et la chevelure, et elle, son brushing, il est où ?» Elle n'a aucune conscience de sa performance de la féminité. Mais ça, c'est une problématique générale des politiques de la représentation, mais si vous voulez.
Vous direz, le film va pas à l'encontre, parce qu'il n'avait pas forcément de but, mais en tout cas, dessert la question de la représentation trans.
Vous savez quoi, finalement, il y a des films, on peut les attaquer, mais celui-là, c'est même pas la peine. Alors, je vous dis, c'est le 19e siècle, c'est transsexuel.
Justement, pour pas rester forcément...
Ça parle que de kékettes coupées, c'est... hallucinant, quoi.
Justement, pour pas rester forcément sur Lola Pater en l'occurrence, comment est-ce que vous jugez, Sam Bourcier, en général, la manière dont la culture s'empare du sujet trans? Est-ce que pour vous, il y a un phénomène de mode? Est-ce que, comme je le demandais tout à l'heure à Delphine Ravizégière, est-ce que ça peut aider à faire avancer les causes, évidemment, si les personnes sont représentées comme il se doit?
Ça dépend qui fait quoi. Vous le dites vous-même, la culture hégémonique française, et Dieu sait si elle aussi elle est ringarde, si elle est euthoriste, hiérarchique, comme aussi la culture française avec l'État, là, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Rien. Enfin, je dis pas, en plus c'est plus compliqué que, c'est pas une garantie si une personne trans ou une actrice trans joue, etc. Je trouve que justement ce type de film, de même que la déclaration encore une fois d'Olivier Py, j'espère qu'il va être bien entouré hein, pour le festival, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va nous mettre du Shakespeare ou quoi? Vous savez ce que c'est la culture trans? Ça passe par la performance, ça passe pas nécessairement par le cinéma, d'abord parce que les gens sont exclus, vous voyez. Ça va peut-être passer par des formes théâtrales qui n'ont même pas encore droit de cité au festival Avignon, qui est encore basé sur le texte, etc. Alors, on va nous jouer du Shakespeare, ou quoi?
Alors, vous faites référence donc au propos d'Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon.
Transgenre.
Delphine Ravizégière.
Oui. Ce film montre vraiment ce que ce mainstream pense des personnes transgenres. Ouais, c'est un révélateur, en fait, de ce que pense cette intelligentsia artistique, qui est, voire même sociétale, sur qu'est-ce que c'est qu'une personne transgenre, transsexuelle, comme ils disent, voilà, pour paraphraser une chanson d'Aznavour. Ce que je veux dire, c'est à un moment donné, c'est un révélateur. Maintenant, c'est à nous, en tant que militantes, en tant qu'intervenantes transgenres sur le sexisme, sur le féminisme, de rebondir sur ce film pour en dénoncer ce qui se passe. C'est-à-dire que le film en lui-même, il n'est pas du tout politique. Il ne sert pas, on va dire, la cause. Je veux dire qu'il n'est pas politique, Ce n'est pas un message politique. Par contre, le fait de choisir une personne cisgenre, on va dire aussi binaire que Fanny Ardant, de l'avoir dirigée de cette manière-là, d'avoir cette vision-là, que l'auteur et le réalisateur ont décidé d'avoir cette vision-là de ce que c'est que la transidentité, ça, c'est politique. Ça, c'est une vraie c'est une vision politique. C'est une vision, on va dire, de renforcement de ce que des stéréotypes sur notre population. Voilà, c'est en ça que c'est politique. Mais ce que je veux dire, à un moment donné, si on regarde par exemple Sense8, qui est une série américaine, bah, vous avez une personne transgenre qui est jouée par une personne transgenre.
Ouais, enfin, c'est réalisé par les sœurs Wachowski.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est une volonté. S'il n'y a pas la volonté de faire quelque chose pour les personnes, pour dire avoir une représentativité, c'est aussi une volonté de ne pas le faire.
Est-ce que ça veut dire que la visibilité doit peut-être passer davantage sur la visibilité des luttes plutôt que sur la visibilité des personnes, la représentation des personnes elles-mêmes ?
Toutes les minorités, y compris le féminisme, les politiques de la représentation, c'est très important. Ce qu'on évoque là, c'est transversal. Et en France, on a un souci, et c'est pas simplement avec la représentation des personnes trans, c'est pareil pour les gays, les lesbiennes, les homosexuels, et les femmes, regardez les débats récurrents à Cannes, etc. Qu'est-ce que vous avez dans le dossier de presse de Lola Pater, le réalisateur, qui dit, quand même, on va pas nous dire que c'est les personnes trans qui peuvent jouer, quand même... Par exemple, Fanny Ardant, elle joue une danseuse du ventre, elle donne des cours, franchement, exotisation, etc. On se pose pas les questions de l'appropriation culturelle. Et d'ailleurs, il parle de Shakespeare. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas une garantie, puisque lui, il est d'origine algérienne, etc. Mais il a intégré cette culture française, universaliste, républicaine, qui dit « moi, je peux parler de tout, moi, je peux jouer de tout ». Mais quand vous y pensez 5 minutes, bien sûr, Fanny Ardant, tu peux pas jouer le rôle. Et c'est pas une question d'expérience, une question de ceci, cela, c'est que, en plus, il n'y a pas beaucoup de place et c'est toi qui prends la place. Donc réfléchis. Et si le film, il plaît pas aux personnes transgenres, pose-toi des questions. Mais c'est les débats qu'il y a eu avec Kechiche, avec ces scènes à n'en plus finir de porno lesbien, etc., etc. Ça suffit. Les trois cas, en termes de visibilité, si vous l'analysez, qu'est-ce qu'il y a comme personne transgenre dans le cinéma français? Des femmes, uniquement des femmes. Pourquoi ? Parce que, comme l'explique bien Fanny Ardant, l'actrice est au service du réalisateur. Elle comprend pas pourquoi Sergento veut pas s'agenouiller devant un réalisateur, par exemple. Il n'y a pas de trans masculin. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi des réalisateurs qui sont des réalisateurs masculins qui prennent le corps de la femme, de l'actrice, qui parlent encore des cadeaux que leur font les actrices sur un tournage, etc. Et qui tripent aussi, des fois, sexuellement, sur les femmes transgenres. Et là, moi, je me disais, en regardant le film aujourd'hui, j'étais avec une amie trans. Bon, on a rigolé pendant tout le film. On était les seuls. Heureusement qu'on était là tous les deux. Mais je me disais, il y a plein de gens qui sont venus voir. Et franchement, c'est un film fétichiste sur Fanny Ardant, parce qu'ils tripent en plus. Ah, Fanny Ardant est une bite. Ce serait pas mal. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont au bois, vous voyez.
Chénès Kirouni, pour pas forcément rester uniquement sur le film Lola Pater, on a parlé à un moment de la question de l'universalité. Sam Boursier en parlait à l'instant. Comment est-ce que vous, dans le combat politique, vous avez inscrit quelque part la question trans dans un combat, on va dire, universel? Et est-ce que c'était important de l'inscrire dans ce combat pour l'égalité?
Oui, parce que concernant le film, moi je ne l'ai pas vu et effectivement j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai écouté attentivement. Vous avez évoqué les différents combats et je pense que ça peut faire partie des combats éducatifs, culturels, politiques, juridiques. On a évoqué la question des femmes et de la place des femmes, et moi je me suis rendu compte que on peut poser la question des femmes au travers de documentaires, au travers de films, au travers des différents combats politiques qu'elles ont pu mener. À chaque fois, malheureusement, c'est la loi qui a permis une meilleure représentation des femmes.
Non, ça c'est faux.
Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois, dans les assemblées des collectivités locales, les assemblées nationales, à chaque fois qu'il a fallu se battre pour avoir sa place, ça n'a jamais évolué, comme on dit, de manière naturelle ou avec le temps. C'est à chaque fois, en tout cas souvent, la loi qui a posé le principe de parité. Sinon, je vais vous dire, aujourd'hui, les conseils départementaux, il y aurait toujours 14% de femmes si la loi n'avait pas été votée durant cette dernière législature. Donc, il peut y avoir une universalité des combats. Il peut y avoir, et là je dis à titre personnel, individuel, des sujets qui peuvent être portés par un certain nombre de politiques. Il se trouve que moi, je ne suis pas une spécialiste de tous les sujets. Mes spécialités sont plutôt du côté du travail, de l'emploi, de la formation, du microcrédit, des stages, de l'insertion professionnelle. Et pourtant, lorsque les associations m'ont interpellée sur ces questions, j'ai pu les porter au travers d'un combat législatif. Et le politique n'est pas un spécialiste de tous les sujets, mais il peut, s'il est engagé, s'il est convaincu, il peut accompagner, relayer les associations, la société civile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis engagée durant ces 5 années de mandat, et je souhaite même le poursuivre en dehors du mandat de législateur.
Delphine Ravizéja.
Oui, donc je vais revenir à votre question qui est sur la possibilité d'un antagonisme entre la visibilité et le militantisme et l'accès à nos droits. Ben, je veux dire, il faut les deux. Il faut avoir un accès à une visibilité, mais à une visibilité de l'identité de genre, et un activisme militant. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Ça ne mènera à pas grand-chose. On fera du surplace. Il faut les deux. Le problème dans notre société, c'est que la visibilité, elle est très difficile à avoir. Je vous dis, avec Lola Pater, le film, c'est très difficile. On voit que ça ne montre pas la réalité, la visibilité sur l'identité de genre, sur les questions de genre, sur le sexisme, sur ce qui concerne tout le monde. Et en fait, on se retrouve face à un mur. Un mur, on va dire, de mainstream, où on se dit, la question de genre, non, on ne va pas en parler. D'ailleurs, on parle de transsexuel. Voilà, comme ça, on évacue la question de genre. Pour mieux invisibiliser les personnes transgenres, les personnes qui vivent une identité de genre différente de celle qu'on leur a assignée à la naissance, on ne parle pas de genre. On évacue ces questions-là. On ne parle pas d'identité de genre, on ne parle pas de genre. Ça n'existe pas. C'est juste dans la théorie pour la manif pour tous, qui, eux, ils savent très bien ce que c'est. Ils savent très bien les enjeux et ils en jouent très bien. Et c'est eux qui ont gagné une partie du combat législatif. Car quand même, la loi qui a été votée, elle a été votée avec une approbation de la manif pour tous, quand même. C'est à cause de la manif pour tous que les personnes transgenres n'ont pas une loi sur l'autodétermination. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc le respect, la visibilité, le militantisme, ce sont des choses qu'il faut conquérir encore dans notre société. Et c'est un combat que j'invite à tout le monde à se poser des questions sur son genre, sur sa capacité à extérioriser son genre et à intérioriser et à extérioriser les discriminations pour pouvoir mener un combat ensemble sur cette binarité sociétale.
Je sais que vous voulez réagir, Sam Boursier, mais je vous donne 5 secondes.
Oui, non, je sais que c'est compliqué. Je reviens sur ce que je veux dire. Les droits ne sont pas une garantie. C'est une manière de voir la façon dont on peut faire la politique. Elle est institutionnelle, elle est réformiste. C'est arrivé au mouvement féministe, c'est arrivé au mouvement gay et lesbien, c'est en train d'arriver au niveau du mouvement trans. Donc, est-ce qu'on fait la même chose, les mêmes conneries? Est-ce qu'on va vers la transnormativité? Et est-ce qu'on oublie les agendas de justice sociale et de redistribution économique, parce que ça, le droit, il s'en tape.
Et des questions qui restent ouvertes pour de prochaines émissions. Merci infiniment à tous les trois, Delphine Ravizéja, Chaynès Khirouni et Sam Boursier d'avoir participé à cette émission ce soir. Merci aux équipes de France Bleu Mayenne à Laval d'avoir assuré la liaison avec le duplex. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres. C'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, du Grain à Moudre, une émission préparée par Cédric Fuentes, Juliette Montilly, Philippine Lebret, Isulte Sicard et Pierre Testard, réalisation Romain Masson, prise de son Pierrick Monsigny.